Histoire de France et d'ailleurs, avec René-Joseph Irmana, qui est un historien, on peut le dire, en tout cas sur Radio Crapaud, mais il va nous parler d'un autre historien, c'est Jules Michelet.
Bonjour. Donc, c'est... comment dire, il n'y a pas de comparaison possible, et c'est sur une autre planète, si je puis dire. Jules Michelet, c'est l'historien, en majuscule, qui fait aussi, on pourrait dire, partie de l'histoire. C'est lui-même un personnage qui appartient à l'histoire et qui a ressuscité l'histoire. Donc au XIXe siècle, parce que je crois qu'on pourrait peut-être, que le, je ne sais pas si c'est une expression hasardeuse, le Victor Hugo de l'histoire, il fait vivre l'histoire, il a ressuscité les morts, les vivants, si je puis dire, pour son histoire contemporaine, et il a traité toutes les époques, aussi bien la Rome antique que le Moyen-Âge, il survole les siècles, c'est un géant. Je crois qu'on peut le comparer, encore une fois, à Victor Hugo, en donnant vie à ses personnages. C'est un roman presque que sa narration, il est contesté. Il a été contesté, notamment par les historiens modernes, académiques, parce qu'il prend position, il est subjectif, si on peut dire. C'est pas, je pense, un historien académique. Voilà. Donc, on va le raconter. Il a eu une vie aussi très tourmentée. C'est un personnage très attachant. Et donc... fascinant. Alors, quelques éléments de biographie. Donc, Jules Michelet, il est né le 22 août 1798. Alors, c'est un peu, quand on parle de Victor Hugo, il disait lui-même, ce siècle avait 2 ans, et là, c'était juste 2 ans avant la fin ou le début du 19e. Donc, 22 août 1798, 5 fructideurs en 6. Et à Paris, et il meurt le 9 février 1874 dans le Midi à Hyères. Voilà. Il est fils de issu d'une gens très modeste en fait. Hein. Il y a aussi une analogie avec Peggy, Charles Peggy, qui était d'une origine très modeste. Sa mère était veuve et rempailleuse de chaises, je crois. Il avait réussi par l'étude, par sa brillance, quoi. C'était vraiment, on dirait aujourd'hui, le mérite républicain. Et d'ailleurs, Peggy admirait, c'est un grand admirateur de Michelet. Voilà. Donc, il est donc le fils unique de Jean-François Furcy Michelet, qui est un maître imprimeur, hein, mais un petit imprimeur, une petite imprimerie, papeterie, et qui avait été d'ailleurs ruiné sous Napoléon, donc par suite à un décret de Napoléon Ier du 5 février 1810, qui limitait, disons pour des raisons de censure, les presses, les feuilles, les journaux diffusables, enfin. Et donc, l'imprimerie avait périclité, il n'imprimait plus que, je sais plus, des affiches, enfin, des tracts, ou, enfin, quoique à l'époque il n'y avait pas de tracts, puisque il y avait une censure, je l'ai dit, c'était une sorte presque de dictature, bien sûr, napoléonienne. Et donc, c'était la ruine. Son père avait même été emprisonné pour dette, hein. Et sa mère était Angélique Constance Millet, qui était donc une femme très pieuse, qui était originaire donc d'un village des Ardennes, Rennes-Ouetz. Mais Michelet a eu la vénération de son père, hein, et son père est aussi est responsable dans le bon sens de sa réussite, parce que il a voulu que Jules suive des études. C'est un peu un père pélican, peut-être. Il s'est sacrifié malgré les difficultés, hein, pour que son fils, qui était brillant, puisse étudier, puisqu'il est devenu notre Jules agrégé, licencié en lettres, hein, et puis philosophie, docteur agrégé, etc. Hein, voilà. Malgré les moyens modestes de la famille. Donc, il naît à Paris, je l'ai dit, le 21 août 1798, à la fin du XVIIIe siècle, donc sous le consulat, hein, sous le Bonaparte, et la famille déménage en 1800, leur rue Montmartre. Alors là, c'est, je l'ai dit, c'est une imprimerie, une petite imprimerie, mais qui périclite suite aux mesures coercitives prises par décret impérial. Le champ des publications est très limité. Hein. Et donc, il adore son père, et c'est un amour réciproque. J'ai parlé d'un père pélican qui fait tout pour son fils. Alors là, parfois on déménage un peu, je pense un peu à la cloche de bois, et l'entreprise, la petite entreprise, déménage en 1808, installation rue des Saints-Pères, dans l'actuel faubourg Saint-Germain. Et donc là, justement, c'était le contraste. Ils avaient un appartement très vétuste, immense, dans un quartier riche, mais alors quasiment en ruine, quoi. Hein. Tout était moisi, enfin voilà, et il faisait froid, quoi. Donc le père finit par être emprisonné pour dette, hein, à la prison Sainte-Pélagie. Et donc l'enfant qui va avec sa mère visiter son père, bien sûr, à 6 ans, il est impressionné par les verrous qu'on ferme, enfin, etc. Il en reste un traumatisme, je pense, impérissable. Donc le père sort de prison. La famille s'installe boulevard Saint-Martin. Alors là, on recrée une mini entreprise de papeterie, imprimerie, et là toute la famille travaille. La mère, qui est, je pense, de santé fragile, enfin, elle s'instaure brocheuse. On apprend le métier, le père connaît le métier, mais, et donc le petit, d'ailleurs, Jules, connaîtra tout de l'imprimerie, hein, puisqu'il se forme, il vit dans cette ambiance d'encre, de papier. Le grand-père, le vieux grand-père qui tremble, qui est tout tremblant, participe aussi, il fait ouvrier imprimeur, voilà. Je répète, pour s'en sortir, eh bien, pas de salarié, mais toute la famille s'y met. Hein. Et donc, Jules est imprégné, encore une fois, par cette ambiance. Et il n'est peut-être pas malheureux, je pense, malgré les aléas, et ce notamment par cet amour paternel. Alors il a des relations, ça sera un coureur de jupons, je pense. Alors il a déjà enfant, il a une petite amour enfantine, une petite copine, Sophie Plateau. Donc c'est premier émoi amoureux vers l'âge de 10 ans, vers 12 ans aussi. Apparemment il est très précoce, une petite jeune fille, une petite Esther, hein, qui là aussi c'est peut-être un amour un peu plus concrétisé, je dirais. Voilà. En octobre 1810, alors là, il est élève dans une pension modeste, la pension Métaux, M-E-T-O-T. C'est un ancien instituteur rural. Mais bon, le niveau est quand même, je crois qu'on y apprend le latin, malgré tout. Donc, mais c'est quand même une pauvre pension. Et il fait quand même la connaissance d'un ami. Il y aura l'amitié aussi, très importante. Et un ami, l'ami de toujours, à la vie, à la mort, Paul Poinceau, qui fréquente, qui est aussi élève, hein, sur les bancs de la pension. Et là, il comparera d'ailleurs cette amitié. Il perdra cet ami avec beaucoup de membres de sa famille. Plus tard, il compare leur amitié avec Montaigne et la Boétie, vous savez, la fameuse amitié. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est l'ami, le confident, etc. L'ami fidèle. Donc, il découvre déjà l'histoire, ça sera l'amant de Clio, l'amoureux de Clio, la déesse de l'histoire, si on peut dire. Il est imprégné, c'est vraiment une passion qu'il éprouvera pour l'histoire. Hein. Ce sera presque une religion, hein, pour lui. Donc il fréquente déjà le musée des monuments historiques, il fait des découvertes, là, il s'imprègne de tout ce qui est le génie, l'histoire, les personnages illustres, etc. Alors, la famille s'installe rue Notre-Dame de Nazareth. Donc on vend la petite imprimerie, le père l'a fait plutôt brader pour un prix des plus modestes, et le père, il semble que Jules aurait pu trouver un petit emploi, notamment dans l'administration impériale, et le père s'y oppose, parce qu'il veut que son fils fasse des études, il veut pas qu'il s'enterre dans un bureau comme commis, etc. Il probablement qu'il sait, il détecte la valeur de son enfant, unique. Et donc, il va fréquenter le collège Charlemagne. Alors, c'est un collège prestigieux. Je ne sais pas trop comment c'est financé, mais enfin, je ne sais pas si à l'époque il y avait des bourses. Quoi qu'il en soit, il parvient à s'inscrire et à fréquenter en octobre 1813 ce prestigieux établissement pour les élites. Hein. C'est aujourd'hui, il y a pas Louis le Grand. Là c'était un collège très, très huppé, je l'ai dit, un lycée. Quoi. Et alors là, il est mal, il souffre, parce qu'il n'est peut-être pas très bien vêtu, il est d'une timidité maladive, il dit qu'il était comme un hibou dans la lumière, il est harcelé, on se moque de lui, etc. Mais il va tenir bon, parce que il va susciter l'affection de ses professeurs, notamment du professeur Andrieux, qui d'abord le prend en pitié un peu, enfin, mais qui va plus ensuite évoluer et vraiment le prendre en affection. Il va reconnaître ses mérites, sa valeur. Voilà. Et en fin d'année, il collectionne tous les prix, quoi. Il est surchargé de prix principaux et d'accessites, si on peut dire. C'est la brillance, l'élève brillant par excellence, le surdoué. Et suprême prestige, c'est une grande école, donc le professeur Villemain, qui deviendra ministre plus tard de l'éducation nationale, un moment à la suite d'un pouvoir brillant qu'il a ému, une superbe dissertation, s'assoit à côté de Jules. C'est un signe, comment dire, d'amitié, de voilà, exceptionnel. Hein. Brillant professeur, à l'époque, comment dire, ils étaient distants par rapport à leurs élèves. Hein, voilà. Il perd son grand-père, là c'est grand-père paternel, et là il a cette phrase de Sagarbert au cimetière qui dit « Il pleut le jour des obsèques », elle dit « Il pleut sur lui ». Là ça le saisit, parce que c'est ce qu'il ressent peut-être pour ensuite pour tous ses morts, puisque l'histoire c'est surtout les morts, bien sûr, il les voit vivants, quoi. Il ressent comme s'il était vivant, ouais, ce grand-père. Il fréquente la bibliothèque de l'Arsenal, alors là il découvre beaucoup d'auteurs, et notamment des auteurs érotiques, et le 18e siècle, les auteurs interdits, voilà. Mais bon, et donc c'est cette littérature hyper il a un côté quand même très sensuel passionné, hein, aussi bien par le sentiment que du point de vue sexuel, quoi, je pense, quoi. Il perd sa mère le 7 février 1815. Là, il a une petite amoureuse, Thérèse, 15 ans. Voilà. Donc, son père, là, ça va évoluer quand même plutôt gentiment. La vie de la famille, si on peut dire. Son père veuf va louer une relation avec une madame Fourcy, F-O-U-R-C-I-Y, qui est une dame très bonne, très, très douce, très maternelle. Donc, ce sera, je pense, une espèce de concubinage. Ils vont pas se marier, mais ils vont vivre ensemble. Et donc, cette dame qui aime Jules tendrement comme une mère, elle impose qu'il soit baptisé. Donc il sera baptisé le 23 juin 1816 à 18 ans. Alors la famille déménage rue Buffon, et puis ensuite, donc rue Buffon, ils vont s'installer carrément chez cette dame Fourcy, qui tient une pension de famille plutôt bien huppée, de bon niveau, hein. Rue Buffon, puis là ce sera rue de la Roquette, voilà, la pension. Donc je l'ai dit, un peu mondaine d'ailleurs, voilà, enfin de bon standing, quoi. Alors là il poursuit ses études, on l'a vu, lycée Charlemagne, brillant, bachelier, licencié S-Lettres, plus tard il sera docteur en lettres, hein, pas spécialement en histoire, donc c'est plutôt les lettres, la littérature, voilà. Ça sera justement un auteur, je parlais de Victor Hugo, de l'histoire, ça sera la littérature dans l'histoire, quoi, voilà. Il est nommé répétiteur, alors institut brillant, il n'y a pas de lien avec Aristide Briand, c'est pas contemporain, quoi. Donc c'est le nom de l'institution. Il passe le troisième concours de l'agrégation, Voilà. En 1822, il est nommé au collège Sainte-Barbe, aussi, collège-lycée, quoi, privé, mais je pense prestigieux aussi. Hein, voilà. Alors là, il fait la connaissance dans la pension de famille, plus que connaissance, puisqu'elle sera sa maîtresse, de Pauline Rousseau. Pauline Rousseau, elle est née en 1792. Elle est une dame de compagnie, d'une pensionnaire. Très huppée, quoi, qui vit à la pension. Et donc Pauline Rousseau, elle a un destin aussi assez particulier. Il aura deux femmes, tout à fait un peu hors norme, je dirais. Jules, elle est la fille adultérine d'un ténor de l'opéra. Sa mère de Pauline, était baronne de Navailles. Elle a eu deux enfants, d'ailleurs apparemment adultérins, un fils Guillaume, et elle, qui est née en 1792, Pauline, qui est la fille d'un ténor, hein, de l'opéra, du nom de Rousseau. D'ailleurs, elle n'avait pas reconnu le ténor, le père n'avait pas reconnu la fille. Apparemment, il y a des problèmes d'état civil, parce que la mère aussi n'avait pas vraiment reconnu. Enfin, il a fallu recréer un état civil, parce que, eh bien, il se trouve que la jeune fille Pauline est enceinte, je crois qu'elle a une quinzaine d'années, hein, elle est enceinte, et donc ils vont se marier avec Jules, donc le 20 mai 1824, ce sera un mariage religieux, et elle a été donc un peu maltraitée, je pense, par la deuxième épouse. C'est un peu le même contexte. Elle a été un peu humiliée, hein. Et donc c'est une jeune femme très douce, très tendre pour lui. Ils auront deux enfants, Charles et Adèle, et elle sera quand même délaissée, non pas parce qu'il va la tromper, mais il a la passion des livres. On l'a dit, ça sera son grand amour, c'est Clio, c'est l'histoire, c'est les livres. Alors il se donne, il travaille tout le temps, c'est un travailleur infatigable, et au lieu de les dimanches de sortir comme les familles peut-être, ou les couples, enfin, elle est seule, et lui il est plongé dans ses bouquins, dans ses travaux. À une époque donc il aura des élèves, d'ailleurs pensionnaires, entre 1827 et 1831, qui formera sur place, enfin qui est en même temps hébergé. Et puis ensuite ce sera une nuée de secrétaires, parce qu'il va dicter tous azimuts, il va dicter ses ouvrages, quoi, hein. Donc il sera professeur à l'école normale en 1827. Alors là il aura deux postes de prestige, et il va le regretter à la mort de Pauline. Il aura des remords, il a dit: je l'ai laissé abandonner, voilà, je l'ai négligé. Poste de prestige, il sera précepteur de la princesse de Berry, donc on est encore sous Charles X, la petite fille de Charles X, la fille de la duchesse de Berry, veuve du duc, fils cadet de Charles X. Donc petite fille de Charles X, elle a 9 ans, et après la révolution 1830, pas de problème au niveau politique, mais là, autre élève prestigieuse, une autre enfant, Clémentine, qui est la fille, l'une des filles de Louis-Philippe, et qui deviendra, sauf erreur, reine de Belgique. Elle épousera le roi des Belges, voilà, dans les années... puisque là on est en 1800, c'est en 1830, là, ou en 1831, voilà. Et donc ces deux élèves, je répète, ça signifie quand même son niveau, hein, de reconnaissance, hein. Alors, il poursuit le cursus honorum. Alors il est archiviste à la Sorbonne, au Collège de France, voilà. Et son ancien professeur Villemain, qu'il avait pris en affection au lycée Charlemagne, est devenu ministre de l'éducation, donc est un intime de Louis-Philippe, donc autre relation, voilà. Alors il publie, il y aura des publications tout au long de sa vie, les trois premiers tomes de son Histoire de France, hein. D'autres suivront. Donc ensuite aussi l'Histoire romaine paraîtra en 1831. Alors le 23 juillet 1839, il perd Pauline, sa femme, donc il exprime ses regrets, je lui dis sa mauvaise conscience, hein. Et là il sait qu'elle l'aimait, il était peut-être un peu tiède, je sais pas, à son égard. Il éprouve là un amour rétrospectif, voilà, fait un peu de tisser un peu de remords, hein, voilà. Et là, c'est sa passion, je l'ai dit, sa passion dévorante de toute sa vie, c'est son idéal, c'est une religion, c'est Clio. Clio, vous savez, c'est l'une des muses, c'est les neuf muses, et c'est la muse de l'histoire, hein, voilà. Et donc, pour lui, il s'agit de vivre et mourir dans un livre, hein, c'est, il est carrément, il fusionne, hein, avec sa passion, il s'y donne corps et âme, hein. Donc là il y aura d'autres relations, parfois il y aura quand même des relations un peu leste, hein, je veux dire. Alors il a une relation un peu spécifique avec madame Duménil, qui est une femme âgée, je ne dis pas son âge, d'un certain âge, qui est en plus malade. Alors ce sera des noces spirituelles, et il parle aussi d'un anneau de fer, donc ça sera une lésion chaste. Et elle meurt d'ailleurs le 31 mai 1842. Et il y aura une situation étrange, c'est que, émouvante peut-être, c'est que le fils de cette dame, le fils du Ménil, épouse la fille de Michelet, voilà. Et leur amour s'incarne charnellement dans leurs enfants respectifs. Donc, il éprouve un désir, c'est ce qu'il cite dans ses mémoires, des réalités vivantes. À noter que sa deuxième femme, je vais en parler, bien va quand même lui survivre et va tronquer un petit peu, va même beaucoup corriger, ça c'est un peu un massacre peut-être, les mémoires posthumes, les œuvres posthumes de Jules, elle va tout rectifier, elle va engommer, en caviarder, parce que si ça la choque, voilà. Et donc elle fera œuvre un peu de destruction, voilà, sacrilège, parce qu'on verra qu'elle a un certain niveau, hein, l'institutrice a été cultivée, mais bon, elle va agir de façon un peu sans manquer de respect à l'œuvre, hein, et les œuvres posthumes seront tronquées. Donc, on y viendra après. Là, il a deux amours, réalité vivante, c'est lui qui le dit. Concrète, avec deux servantes, Marie, qui est baptisée Barbara, et puis Victoire, qui est baptisée Rustica. Alors là, ça sera un peu, on en doute, ses maîtresses. Alors, voilà. Et l'une d'elles, il cherche aussi à les instruire. Et avec Victoire, ça sera un peu mieux, mais elle va quand même rencontrer ses limites, quoi. Voilà. Il veut les éduquer. Alors, il écrit un ouvrage sur les jésuites en 1843. Il est anticlérical, si on veut, mais enfin, c'est pas un anticléricalisme sauvage. Il écrit Le Prêtre en 1845, ce qui ne l'empêche pas d'admirer des grandes figures spirituelles et leur donner vie, comme Bossuet, Fénelon, qui va admirer. Donc, c'est pas un anticléricalisme sauvage. Il pense que, notamment, il parle du frère ou du prêtre, que considérer, d'ailleurs c'est un peu comme Clémenceau, que eh bien, c'est un étranger au service d'un chef d'État étranger au service du pape. Voilà. C'est d'ailleurs ce que disait Clémenceau aussi à propos de. Voilà. Donc il est nationaliste. Hein, et d'ailleurs, la révolution pour Michelet, c'est la France est assimilée un peu à une révolution. Quoi. La révolution française par excellence. Voilà. Donc. Il écrit Le Peuple, alors justement, où, publié en janvier 1846, où il évoque aussi ses souvenirs d'enfance, ses propres souvenirs, douloureux, mais pas, comment dire, pas larmoyants, quoi. Hein. Et donc, Le Peuple, il prévoit, notamment, il imagine, il y a un imaginaire, hein, quelque chose comme dans un songe, quoi. C'est une description pas du tout, je pense, rationnel ou comme un historien classique. C'est du romancier, c'est du, je pense, du Hugo, du voilà. Il imagine les méfaits de la révolution industrielle, le monde ouvrier pauvre qui travaille dès avant la chaîne, mais comme une bête, hein, comme des bêtes de somme, avec des logements insalubres, enfin tout ce paupérisme, voilà, qu'il dénonce, hein, voilà. Donc, il fait connaître aussi ses opinions depuis sa chaire à Normal Sup, hein, ses conférences. Voilà. Et donc, il lance aussi des attaques, et il est attaqué, il a des polémiques, Voilà. Alors ses proches, on cite et amis, intellectuels, Edgar Quinet, Mickiewicz, qui sont des penseurs, des historiens, voilà. Hyper son père, Jean Michelet, donc là aussi. Et alors dans ça, il est aussi entre positionnement. Il est plutôt, on l'a dit, républicain, mais je pense que alors, c'est un républicain plutôt au centre, hein, peut-être. Il n'est ni du côté de Tocqueville, qui est le penseur libéral, ni du côté de Louis Veuillot, qui est on dirait l'extrême droite catholique à l'époque. Donc il est un peu dans un entre-deux. Voilà. Mais alors, à son poste prestigieux, de professeur, d'enseignant et conférencier à Normale Sup, il est quand même très absent. Hein. Il y a un fort absentéisme et il finira par être licencié, remercié. Voilà. Mais il est protégé par Villemain, je l'ai dit, son premier professeur, son professeur et ami du lycée Charlemagne. Mais il y aura le ministre suivant, Salvandi. Mais là, ça se situera à la fin du règne de Charles X. Val, quand même, il sera licencié pour le coup. Alors là, ça sera sa deuxième. Mais bon, il vide ses œuvres largement. Voilà. Il est pas, il pointe pas au chômage, il n'y a pas de problème. Et puis, il retrouvera son poste en faveur d'un retournement politique. D'ailleurs, après février 1848, après la Révolution. Donc là, c'était sous Louis-Philippe, je pense, le licenciement par le ministre Salvandi. Mais après la Révolution, sous la Première République, il retrouvera son poste, et notamment il fera une entrée somptueuse, enfin, à la Sorbonne. Voilà. Alors sa deuxième épouse, Athénaïs Milleret, ou Milleret, qui est c'est une personnalité... Je ferai un petit peu sa biographie séparément. Elle est institutrice dans une famille princière allemande. Hein. Et donc, là aussi, elle avait été maltraitée, notamment par sa mère. Voilà. Elle avait dû, au décès de son père, donc pour vivre, elle est cultivée. Ses parents viennent des îles, je pense de Martinique. Voilà. Donc, j'y reviendrai plus précisément, et en plus je crois qu'elle a une mauvaise santé, j'ai l'impression qu'elle est petite, elle ne s'est pas développée, enfin c'est la grâce, elle est diaphane un peu, voilà. Et donc elle est dans une famille princière, je pense plutôt en Autriche, on dit en Allemagne, à Vienne en Autriche, elle élève les enfants, et donc elle va lire le prêtre, il y aura une correspondance qui va s'échanger, très impressionnée par ce texte. Et donc elle va vouloir rencontrer Jules, alors qu'ils ont 28 ans d'écart. Hein. Donc il est renvoyé, je l'ai dit, par le ministre Salvandi du Collège de France. Et puis c'est la Révolution de 1848. Alors 6 mars 1848, renversement de Louis-Philippe, Première République. Et là, il est porté en triomphe. Il entre à la Sorbonne comme professeur, donc de façon très... prestigieuse, enfin, voilà, portée par l'opinion publique. Donc, le 8 novembre 1848, Athénaïs, la jeune fille, rentre à Paris, enfin, parce que la révolution en 1848, c'est un peu comme 1968, il y avait, c'était répandu dans le monde entier, 1848, enfin, en Europe, il y avait des révolutions un peu partout, hein, donc 100 ans avant, ou 120 ans avant, enfin, eh bien, révolution. Et donc, elle revient de Vienne, mais elle est favorable, hein, elle soutient les étudiants révolutionnaires en Autriche, quoi. Mais elle veut rencontrer Michelet, et donc elle frappe à sa porte, il s'y attendait pas. Et donc, aussitôt, c'est le coup de foudre, voilà. Alors, elle est toute douce, toute tendre, toute fragile, un peu diaphane, je l'ai dit. Elle est langoureuse, enfin, elle souffre d'une... On parlait autrefois dans les romans de maladie de langueur, mais c'est un peu ça dans la réalité. Donc, on ne sait pas trop ce qu'elle a, mais elle est fragile, on dirait qu'elle est presque mourante. Hein, voilà. Et donc, elle ne souffre pas, mais elle est hyper fragile. Voilà. Et on disait d'elle... alors je ne sais plus qui a écrit ça à propos d'elle, aucun organe n'est atteint, mais tout languit, tout souffre, voilà. Et donc, il est saisi, je répète, c'est le coup de foudre, et donc elle le voit un peu comme une dimension paternelle de maître à penser, de mentor. Je répète, il a 50 ans et elle 26, quoi, voilà. Donc, il se balade dans les rues, il y a un côté romantique, dans les parcs, longue discussion, hein, mais ça va évoluer vers un amour classique, un amour d'ailleurs plus ou moins chaste, parce que apparemment la relation sexuelle est très limitée, parce qu'elle est si fragile. Quoi qu'il en soit, ils auront un fils, ils auront même trois enfants, mais qui mourront à quelques semaines, hein. Ils auront, voilà. C'est presque un célibat conjugal, semble-t-il. Et donc elle va lui inspirer son prochain cours au Collège de France, femme, amour, éducation. C'est des trois, pour lui, c'est trois choses identiques. Et l'éducation, le rôle de la femme dans le foyer, et qui est vénéré, et puis la famille. Mais je pense qu'il a une notion quand même pas très classique de la famille, puisqu'il a fait scandale dans ses cours aussi, voilà. Parfois, certaines de ses œuvres, je crois que l'éditeur avait refusé de les publier, voilà, ça, donc, mais l'éducation, c'est la clé de tout. Pour lui, c'est les trois. Il dit, il y a trois points, il y a trois. C'est l'éducation, voilà. Sur un plan politique, c'est là qu'est l'avenir. Donc, il épouse Athénaïs. Donc, cet amour, ça devient un amour basique. Ça n'est pas un amour père-fille. 18 mars 1849. Hein. Et d'ailleurs, il fait la métaphore avec l'amour de Condorcet, le grand savant, et Sophie Condorcet, qui est une toute jeune femme, qui a été aussi sa collaboratrice. Il évoque aussi Roland, le couple Roland. Alors, le ministre, j'en avais parlé des Girondins, et Manon, ils avaient une grande différence d'âge aussi, enfin, 28 et 60 ans à peu près. Et Manon Roland qui périra, j'en ai parlé, sur l'échafaud, avec les Girondins. Donc, il y a une. Et qui était aussi une intellectuelle, une femme de lettres, voilà. Donc, l'union est célébrée. Alors, le mariage, apparemment, il dit qu'il c'est un mariage presque spirituel, mais il est quand même consommé, puisqu'il y a un fils, j'en ai parlé, un premier fils qui naît le 2 juillet 1850 et qui meurt quelques semaines après, le 24 août 1850. Hein. Et donc, il continue ses cours. Donc, il écrit l'amour. Alors, les œuvres sont nombreuses, je pourrais en citer quelques-unes. L'amour en 1858, la femme en 1859. Donc, son cours au Collège de France est très personnel. J'en ai parlé, et c'est notamment sur le cours sur la famille. Alors, je n'ai pas les. Il est de gauche, on l'a vu plutôt de gauche, mais ça sent le soufre. Hein. Alors, je n'ai pas le détail, mais ça choque. Ça peut choquer dans ce contexte du 19e siècle, au point qu'il est. Suite à une dispute avec le directeur de normes du Collège de France, il est suspendu. Hein. Après une altercation. Et donc, on lui propose d'ailleurs, parce que c'est un personnage quand même prestigieux, de garder son poste avec un demi-salaire, mais il refuse avec hauteur. Donc, la famille part à Nantes un temps, puis en Italie, à Gênes. Athénaïs est du voyage, bien sûr. Et donc, là, il est quand même épuisé par un travail intense. Le couple revient à Paris, donc en août 1854, actuellement rue d'Assas, et ça sera le dernier domicile. Et là, il va publier les 6 tomes de l'histoire de la Révolution entre 1847 et 1853. Un travail intense, hein, voilà. Et donc. Sa femme est un peu aussi sa muse, et donc le journal évoque l'amour conjugal, mais il écrit aussi une histoire de la Renaissance. Donc il y a d'autres enfants, on aura un fils, mais là ils meurent tous, C'est une malédiction. En 1850, un fils qui meurt la même année, je l'ai cité d'ailleurs, juillet-août, une fille meurt en 1853, un fils en 1862. Et donc, le succès, par exemple, d'Amour conjugal, fait, il y a un côté scandaleux. Enfin, il faut découvrir les œuvres. Hein. Donc, on a, à la fin du Second Empire, plébiscite du 8 mai 1870, et là, il est pour le non. Hein. Alors que le oui est majoritaire, mais c'est le triomphe proche de la chute, puisque septembre 1870, ça sera la chute lors de la guerre contre la Prusse, la défaite, Sedan, septembre 1870, et la chute de l'Empire. Et donc là, dès mai, il est contre. C'est un pacifiste. Il signe d'ailleurs un manifeste pour la paix. Il sent peut-être qu'on va à la catastrophe. Hein. Voilà. Et donc, il est... à l'époque, en fin 1870, avait fait un séjour à Montreux, et puis il apprend, c'est là qu'il apprend la nouvelle, et à Florence, en Italie, il apprend la nouvelle de la chute de l'Empire. Hein, voilà. Et donc, c'est la fin. Il va mourir, paisiblement, le 9 février 1874, à Hyères, d'une crise cardiaque. Voilà. Et donc, on peut citer aussi d'autres œuvres, l'histoire du 19e siècle. Vont être publiées à titre posthume, je pense, les tomes 3 et 4. Hein. Et donc, c'est là que, je l'ai dit, son Athénaïs, qui est de santé fragile, il va lui survivre, elle est plus jeune. Et donc, elle va quand même... Le personnage est contestable parce qu'elle va caviarder son œuvre, en éliminer tout ce qui la choque et modifier, corriger elle-même. Donc, ce qui déroute un peu les historiennes dans leurs recherches. Elle va faire un peu une œuvre un peu sacrilège, on va dire. Alors, sur le personnage, je pense qu'on va peut-être faire notre intermède. On est à mi-temps, à peu près. Donc, bon, ça sera le Wagner, les Valkyries, parce qu'il fait vivre l'histoire et les moments... de violence, les moments de guerre, les moments. Donc, c'est tonitruant. Je répète l'image de Hugo, quoi. C'est grandiose. Et donc, bon, cette musique, je pense, il fait vivre les morts, le souffle des morts. Il les fait parler. Voilà. C'est grandiose, gigantesque et terrible. On se retrouve dans 3 minutes.
Histoire de France et d'ailleurs, donc on évoque aujourd'hui Jules Michelet, l'historien qui a ressuscité l'histoire.
Donc, oui, à titre peut-être anecdotique, entre 1995 et 2000, je me suis inspiré d'un, notamment d'un fascicule de la série des grands écrivains, pour certains qui peuvent s'en souvenir, entre 1995 et 2000, donc à la, justement les 5 années qui précédaient la fin du XXe siècle et l'aube du XXIe, c'était ces fascicules paraissaient, et en parallèle à une émission qui était présentée, alors je ne sais plus sur quelle chaîne, justement, d'une série des grands écrivains, et qui était présentée par Bernard Rapp, un journaliste sympathique, il me semble, qui est mort jeune, hein, il est mort il y a quelques années, je crois, lors d'un reportage, peut-être au Liban, une mort accidentelle, quoi. Et donc, toutes les semaines, il y avait un grand écrivain et un fascicule qui paraissait, avec un livre de l'auteur, un petit livre, un petit format de l'auteur concerné. Et donc, Michelet, bien sûr, y figurait. Alors, sur ses épouses, la première, je vous dis, elles sont tout à fait particulières. Alors, lors de la... du séjour à la pension de la rue Roquette, où son père est veuf, et chez la pension de Madame Fourcy, hein. Et donc c'est là qu'il fait la connaissance d'une jeune fille, toute jeune, je crois qu'elle a 15 ans, enfin, elle est depuis 4 ans, elle est sa maîtresse, Pauline Rousseau, qui était l'ancienne dame de compagnie d'une des pensionnaires de Madame Fourcy. Elle est née en 1792, hein, donc ils ont 6 ans d'écart, hein, voilà. Et donc elle a eu une enfance, elle aussi, c'est peut-être ce qui attire, qui fait la fusion entre les deux. Elle a eu une adolescence très triste, due au caractère fantasque et peu sympathique de sa mère, une très belle femme, un peu légère, qui avait épousé en 1782 le baron de Navailles. Un an après, ils ont eu un fils, Guillaume, là c'était un fils adultérin déjà, dont le père aurait été, selon Michelet, un grand seigneur du temps, le prince de Beaufremont. Et en 1791, la baronne, orgueilleuse et aventureuse, et donc un peu, on l'a dit, amante un peu libre, elle s'était prise d'un brillant ténor de l'opéra, Rousseau, qui sera le père de Pauline. Et donc cette dernière avait une situation d'état civil pur, à l'époque mal régularisée, puisqu'elle n'avait pas été reconnue par le baron, qui était son père, enfin si on peut dire, bien sûr, qui aurait été son père nourricier, quoi. Mais il refuse la présomption de paternité, donc a priori. Et donc elle grandit sans état civil, et sa mère, qui préférait son frère Guillaume, l'avait mise au couvent. Et donc, voilà. Et donc là, elle va épouser, sans être très heureuse, on l'a dit, ni malheureuse, mais Jules qui se donne totalement à sa passion de l'histoire, à sa passion de l'étude. Jules qui est abîmé dans ses livres, qui travaille tout le temps, et qui va un peu la délaisser. Voilà. Et donc, dans cette pension, dans cette époque, là je l'ai dit, c'est une période, la pension de Madame Fourcy, et donc là, il y a toutes les proches, c'est un cocon, la bonne et douce Madame Fourcy, qui est la deuxième épouse, disons, de son père, mais non régularisée. Il a auprès de lui son ami, Paul Poinceau, l'ami exalté de toujours, Madame Fourcy, qui est presque une mère adoptive, son père, toujours d'un dévouement aveugle pour son fils, et Pauline, donc, qui a désormais une affection conjugale. Mais les morts vont survenir. Son ami Poinceau meurt de phtisie en février 1821. Madame Fourcy disparaît à son tour 2 ans plus tard. Et Jules se retrouvera seul avec son père et Pauline, qui est enceinte et donc qui va épouser. Il écrit « Je la possédais depuis 6 ans. Elle n'espérait pas être épousée. Jusqu'au dernier moment, il en douta. Cependant, elle était fort grosse, un peu humiliée, et pourtant si douce, qu'elle ne se plaignait pas. Ne me pressez pas. Elle voulut l'église. » Et donc, 20 mai 1824, ça sera le mariage, j'y consentis. 2 seuls témoins, mon père et notre charbonnier. Point de couronne d'oranger, et chaque peau blanc, robe blanche, qui grossissait en chapeau blanc qui grossissait encore son ventre. Elle était fort touchante et jolie de demi-honte. Voilà. Et donc, on a fabriqué cet état civil pour Pauline, pour la légitimer en quelque sorte. Et Madame de Navailles a dû un peu se sentir humiliée parce qu'elle a dû reconnaître, un peu contrite et contrainte, se déclarer un peu veuve Rousseau. Bon, c'était quand même un ténor, hein, prestigieux, mais bon. Donc, sur la deuxième épouse, intéressante aussi, Athénaïs Mialaré, elle était née en 19 octobre 1826, donc il y a une grande différence d'âge, hein, hein, puisque Jules est né en 1798, c'est ça. Donc ils ont 28 ans à peu près d'écart. Hein. Et donc, elle était née à Montauban, en Tarn-et-Garonne. Athénaïs Marguerite Mialaré, je l'ai dit, fille d'Yves Louis-Jacques Mialaré, et donc ancien précepteur des enfants de Toussaint Louverture. Enfin, c'est des pères, son père vient des îles, voilà. Je ne sais pas si c'est la Guadeloupe ou la Martinique, voilà. Et donc, et sa mère, Marguerite Emma Becknell, qui était originaire de Louisiane, donc en Amérique. Elle avait épousé son père à la Nouvelle-Orléans, donc des origines exotiques, on dira. Elle est placée en nourrice pendant les premières années de sa vie, maltraitée par sa mère, mais trouve refuge auprès de son père, homme aimant, cultivé, et c'est grâce à lui qu'elle étudie. Son père décède, et donc elle va s'embaucher pour gagner sa vie. À l'époque, il y avait peu de choix pour les filles, comme institutrice des enfants d'une famille princière à Vienne, en Autriche, la famille Cantacuzène. Donc, révolution de 1848, en Autriche comme en France. Bon, elle rentre en France, mais je pense pas. Elle était solidaire des étudiants. Alors, il y a une anecdote où, lorsque le cortège des trois étudiants avait été tué à Vienne, dans la répression, et l'autorisation de sa patronne, la princesse, donc, de déployer, je ne sais plus, des corbeilles, des couronnes de fleurs, en hommage aux étudiants morts. Le cortège s'arrête devant le palais, un princier. Voilà. Donc, elle a lu en Autriche le livre de Jules, prêtre, femme et famille, du prêtre, de la femme et de la famille, paru en 1845. Et elle est à l'origine. Et là, une correspondance va s'échanger avec Jules, et donc elle vient le rencontrer, de rue il lui déconseille, mais enfin elle vient, 7 octobre 1848, elle le voit, elle le rencontre le lendemain, et donc ils s'épouseront le 12 mars 1849. Elle lui donnera un fils, j'ai dit, hein, mais elle est très fragile, et donc leurs relations sexuelles apparemment sont atténuées, et donc ils ont quand même, je dis, il y a plus deux autres enfants. Le premier, 1850, ils mourront tous. Il vit que quelques semaines, Yves-Jean Lazare. Voilà. Et alors le problème, la touche un petit peu, comment dire, qu'on peut, le côté un peu contestable, hein, d'Athénaïs, c'est qu'à la mort de Jules en 1874, malgré sa santé fragile, elle y survit. Elle mourra en 1899 seulement. Et elle se consacre à la fabrication, entre guillemets, du grand homme. C'est-à-dire, on l'a dit, qu'elle va publier les écrits posthumes de Jules Michelet, mais elle les aura rectifiés, falsifiés, certains détruits. Hein, et donc, elle fabrique un peu un personnage. Elle supprime ce qui la choque, voilà. Et donc, ça déroute un peu les historiens, et c'est une œuvre un peu sacrilège quand même, hein, voilà. Elle meurt le 2 avril 1899 à 72 ans, voilà. Elle laisse ce souvenir un peu romantique, mais contestable, malgré tout. Alors, je pourrais peut-être citer, alors justement, toujours pour, dans le cadre de cet échange, et donc, je donnerai un petit texte, la correspondance depuis Vienne. Athénaïs écrit à Michelet, elle est très impressionnée par la lecture du prêtre. Elle déclare, elle lui écrit, « Le monde n'admet pas qu'une jeune fille puisse chercher un guide en dehors du prêtre. Si vous le lui ôtez, alors que lui reste-t-il? J'ai perdu mon père à 14 ans. Si je l'avais conservé, je n'aurais pas eu besoin d'un directeur. Puisqu'il me manque, permettez-moi de vous demander de tenir pour une fois sa place et de me donner assistance, car je sais bien que je ne me retrouverai plus jamais tel que j'étais avant de vous avoir lu. Il me faut une orientation nouvelle. Donc il est perturbé par la lecture de l'ouvrage de Michelet. Donc il me faut une orientation nouvelle. Et donc elle lui offre l'hommage de son respect filial. Et donc c'est le 2 janvier 1848, 3 mois après, eh bien, c'est la révolution, hein, notamment aussi en Autriche, hein, tout au moins les manifestations. Et donc c'est le moment où il est renvoyé, mais bon, ça rejoint l'histoire que j'ai racontée par le ministre Salvandi, voilà, du Collège de France. Et donc elle va venir, ils vont se rencontrer, et donc eh bien ça sera l'union. On aura au-delà de la tendresse paternelle et filiale, mais ils ont 28 ans d'écart. Mais donc, et il évoque aussi l'attitude là d'Athénaïs. Elle est quand même elle partage ses opinions. Alors, lorsqu'elle était dans son palais comme préceptrice en Autriche, lors de la manifestation, elle avait collectionné, avec l'autorisation de sa maîtresse, 3 couronnes de fleurs pour les 3 étudiants morts par la police autrichienne lors de manifestations. Sur un signe, écrit-elle à Michelet, les étudiants qui avaient l'honneur de porter les cercueils vinrent se placer sous notre balcon, et les 3 couronnes que retenaient dans nos mains de longues écharpes de crêpes noires lentement descendirent et, comme d'elles-mêmes, se posèrent à l'endroit précis où la veille encore battaient 3 jeunes cœurs enflammés de patriotisme. Voilà. Et donc Michelet est ému, bien dur, par ce lettre. Il en est même bouleversé. Voilà. Donc ça sera sa deuxième épouse, avec cette dimension romanesque, passionnée. Alors, sur l'œuvre, c'est la grande histoire de Michelet. Hein. C'est aussi presque un archéologue, un géologue de l'histoire. Il va au tréfond. Hein. Alors il est à la fois un historien sur le plan académique, contestable et contesté. Il fait parler ses personnages, voilà. Mais je crois que c'est le propos d'Alexandre Dumas, ses romans historiques, qui disait on peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Voilà. Donc, historien peut-être contestable et contesté par les historiens modernes, mais c'est un créateur de génie, il fait vivre, il donne du souffle à l'histoire de France, voilà. Et pas que l'histoire de France, alors notamment ses œuvres, Le Peuple, la sorcière qui évoque les superstitions, hein, voilà, depuis le Moyen-Âge. Et dans Le Peuple, il raconte aussi ses souvenirs, il y a une dimension autobiographique. Et donc il a une lecture nationaliste des révolutions. La révolution est attachée à la France. Pour lui, c'est la révolution française qui est un petit peu le modèle des révolutions. Alors, on parlait des... pour le peuple, le côté barbare du peuple dans la révolution, lui, il estime que barbare, c'est positif. Ça signifie une régénération, un sang neuf. Alors il est anticlérical, on l'a dit, mais on peut le mettre un peu entre guillemets, au sens où l'Église, les prêtres sont des pampes de Rome, donc d'un chef d'État étranger en quelque sorte. Voilà. Et c'est le même posture, je l'ai dit, que Clémenceau. Hein, voilà. Mais il a de grandes admirations pour des grandes figures spirituelles à qui il donne la voix, Bossuet, Fénelon, etc. Voilà. Donc il évoque le machinisme, c'est lui qui invente le mot, et les méfaits de la société industrielle, du prolétariat, hein. Il est pour la famille, l'école et l'éducation permanente. Aujourd'hui on parlerait de formation permanente, alors il est le chantre de la formation permanente. C'est éducation, c'est le mot clé, hein, de sa politique, et tout au long de la vie il faudrait étudier tout au long de la vie. Voilà. Alors sur la sorcière, l'ouvrage La Sorcière, ça évoque la physio, il y a une dimension physiologique aussi, exacerbée, il y a un côté, je pense, sexuel aussi dans ses œuvres, voilà, qui ont pu choquer, on l'a dit, et il estime que l'Église, justement, on parle aujourd'hui, on a parlé, civilisation judéo-chrétienne, il parle que toutes les perversions dans la sorcellerie, tout ça, proviennent justement de la brimade imposée par, eh bien, cette morale traditionnelle, et qui amène un défoulement par la perversion, qui est une sorte de libération. Voilà. Il préfigure aussi Freud. Voilà. C'est l'histoire des mentalités, de la psychologie. Voilà. Donc, il écrit aussi des livres sur la nature. Alors, je pense sur l'océan, sur la faune de la mer, etc. Oui, c'est assez. Il y a un côté, je sais pas. Alors je dirais peut-être des bêtises, Jules Verne. Enfin, il décrit de façon très. Il y a un côté scientifique, un côté voilà, les poulpes, enfin toute la vie marine. Hein. Et puis son journal, il y a une dimension, un côté médical dans son journal. Voilà. Il a un côté immoral. Hein, il choque. Mais c'est un grand témoin du temps et il a une influence capitale dans l'histoire intellectuelle. Et il plane au-dessus des siècles. Et sur l'avance de Peggy, il récupère l'arriéré de la race. Il présentise les siècles passés. L'histoire, elle devient présente, vivante, hein, sous la plume de Michelet. Il n'est pas du tout ennuyeux, c'est le contraire. On ne s'endort pas en le lisant, quoi. Voilà. Et ça, c'est. Il est éternel, il fait partie lui-même, il est devenu lui-même un personnage historique. Eh bien, je pense que nous allons conclure, eh bien, générique de fin, hein, puisqu'il reste une minute. Et bien, à bientôt, chers amis auditeurs, pour une prochaine émission. Chers auditeurs et amis.